RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Serbie. Après de longues années de guerre dans les ex-républiques yougoslaves, une décennie de règne de Milosevic, des sanctions économiques et les bombardements de l'OTAN aussi, le pays porte encore aujourd'hui les stigmates de son passé. La Serbie, en perpétuelle transition, peine à se relever du marasme économique et à sortir de la crise politique. Depuis quelques années, le pays qui aspire à rejoindre l'Union européenne connaît un net recul des libertés, avec des médias sous contrôle, une justice à l'arrêt, l'impunité pour les proches du pouvoir, tout cela sur fond de corruption et de violence. Cette dictature de velours a fini par réveiller une partie de la population qui se soulève aujourd'hui contre un autocrate en puissance, le Premier ministre Aleksandar Vučić, récemment élu président. Dérive autoritaire en Serbie, réveil de la société civile, grand reportage signé Jelena Tomić.
Belgrade, mardi 25 avril. Plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-vous dans le centre de la capitale serbe. Le quartier de Sava Mala, situé en bordure de la Save, longtemps délaissé, s'est transformé en un gigantesque chantier. De grandes tours d'une vingtaine d'étages sont en cours de construction. Des appartements de luxe, un centre commercial, des bureaux ultra-modernes doivent y voir le jour. Mais le projet suscite l'indignation de la population. Dobrica Veselinović est l'un des leaders du mouvement « Ne noyons pas Belgrade ». Il nous raconte ce qui s'est passé il y a très exactement un an.
Dans la nuit du 24 au 25 avril 2016, en pleine nuit électorale, un groupe d'une trentaine d'hommes cagoulés a fait irruption dans le quartier avec des bulldozers. Ils ont rasé plusieurs bâtiments, dont des restaurants, des entrepôts, arrêté et ligoté des témoins de la démolition. Des habitants du quartier ont raconté avoir appelé la police, mais aucun policier n'est venu à la rescousse. Le lendemain, les autorités municipales, qui ont complètement passé l'incident sous silence, se sont empressées d'envoyer des pelleteuses pour déblayer le terrain. Le ministre de l'Intérieur ne s'est pas exprimé non plus. Cette nuit-là, la justice et la sécurité ont tout simplement cessé de fonctionner. Les Belgradois ont pu se rendre à l'évidence. Cet incident était en fait une action savamment orchestrée depuis le sommet de l'État.
Frustrés de voir disparaître les berges de la Save au profit d'intérêts privés, les Belgradois protestent aussi contre l'opacité totale qui entoure le projet.
Le fait que depuis un an, et malgré le dépôt de pas moins de 2000 plaintes, il n'y ait eu aucune enquête ni mise en examen, démontre bien que quelques politiques ont un intérêt personnel dans ce projet. Il y a un système de collusion évidente entre la police, la justice, le parquet, les services de l'urbanisme au niveau de la ville et de la République. On ignore tout du projet. On parle d'un supposé groupe émirati qui, en tant qu'investisseur privé, pourra, sans contrepartie financière à terme, devenir propriétaire de ce terrain de 100 hectares sur lequel il aura construit des tours. C'est un hold-up des ressources publiques au profit d'intérêts privés, sans que l'on connaisse les éventuelles contreparties pour notre ville ou pour l'État.
Les rues de Sava Mala sont déjà bondées, le cortège est prêt à partir. Dans son haut-parleur, une femme remercie tous ceux qui sont venus apporter leur soutien, et ils sont nombreux. On compte près de 10 000 manifestants. Parmi les protestataires, on retrouve Jody, qui porte fièrement son gigantesque drapeau aux couleurs arc-en-ciel. Âgée de 38 ans, lesbienne et issue de la minorité rome, Jody se revendique féministe radicale. À la question « Pourquoi elle manifeste ?», sa réponse est sans appel.
Primer Beograda na vodi i primer Ce projet illustre parfaitement la manière dont fonctionne notre élite politique et la violence qu'elle exerce sur nous depuis maintenant 30 ans. Ce sont toujours les mêmes têtes qui, dans les années 90, faisaient la guerre à tous ceux qui pensaient différemment. Ce qu'ils font aujourd'hui est un urbicide, la destruction étant indissociable de toutes les autres formes de violence. On vit en permanence dans une atmosphère d'oppression, de violence et d'anéantissement de nos droits. Après avoir manifesté pendant 10 ans contre Milosevic, on se retrouve aujourd'hui encore dans la rue, c'est désespérant. D'un autre côté, on retrouve de l'espoir car le mouvement Ne noyons pas Belgrade a réussi pour la première fois en plus de 20 ans à mobiliser des centaines de milliers de personnes à travers tout le pays. Nous tous ici représentons la société civile, du moins ce qu'il en reste. Et nous poursuivons un même objectif, combattre l'injustice et la violence. Il faut que ça change.
Devant le siège du Parlement, les manifestants se lâchent. Les slogans fusent. Voleurs, dehors, démission. Des rouleaux de papier toilette volent en direction de la bâtisse. La sono diffuse d'anciens extraits de discours du Premier ministre qui promet des sanctions contre les responsables de la démolition de Savamala. Le discours est copieusement sifflé. Jusqu'à ce jour, personne n'a répondu devant la justice. L'affaire des fantômes de Savamala, en allusion au commando encagoulé, a provoqué un électrochoc dans une population jusqu'ici comme anesthésiée. Premier ministre depuis 2014, Aleksandar Vučić, ancien nationaliste et ministre de l'information sous Milosevic, reconverti en pro-européen, concentre aujourd'hui tous les pouvoirs. La dérive autoritaire a atteint son paroxysme lors de l'élection présidentielle le 2 avril dernier. Un scrutin remporté, mais dans quelles conditions ? Milan Antonievic, le directeur de UCOM, le comité des juristes pour les droits de l'homme, donne un aperçu des multiples irrégularités lors du processus électoral.
Il y a eu différents types de pressions. Juste avant le début de la campagne présidentielle, une liste de 400 000 électeurs a fuité et était accessible sur Internet. La liste comportait toutes sortes d'informations personnelles, y compris les affiliations politiques. Les activistes de Vučić ont utilisé ces listes pour faire du porte-à-porte et exercer des pressions sur les électeurs, en les menaçant par exemple de licenciement s'ils ne votaient pas pour le parti au pouvoir. Ces menaces étaient surtout adressées aux employés du service public qui représentent 10% de la population, soit environ 700 000 électeurs. C'est beaucoup. On a forcé certains électeurs à prendre leur bulletin de vote en photo pour prouver qu'ils avaient bien voté pour le parti au pouvoir, ce qui est complètement illégal. Un autre exemple flagrant, celui du chantage utilisé contre les populations les plus défavorisées qui risquaient de perdre leurs allocations si elles ne votaient pas pour le candidat Vučić, où on leur offrait de la nourriture en échange de leur voix. Évidemment, aucun de ces cas n'a fait l'objet d'une procédure judiciaire.
Durant la campagne présidentielle, le CSA serbe n'a pas comptabilisé le temps de parole des candidats. Résultat, Aleksandar Vučić a bénéficié en moyenne de 10 fois plus de temps d'antenne que les 10 autres candidats réunis. La mainmise du pouvoir sur les médias privés se fait également par le biais de la publicité. La grande majorité des agences publicitaires sont aux mains des proches du pouvoir. Le chantage consiste à menacer un média de lui retirer cette importante source de financement si ce dernier ne présente pas le candidat du parti au pouvoir dans un contexte favorable. Dans cette atmosphère d'oppression, les journalistes d'investigation sont la cible préférée de la presse à scandale. Le 20 avril dernier, le CINS, le Centre serbe de journalisme d'investigation, a reçu le prestigieux prix de la presse européenne pour 3 enquêtes sur les liens entre la politique, le football et le crime organisé et pour son combat contre la corruption. Une reconnaissance qui ravit le directeur Branko Cecin, d'autant plus que son équipe était en compétition avec le consortium international des journalistes d'investigation qui ont remporté cette année le prix Pulitzer pour leur enquête sur les Panama Papers.
Ce prix, décerné par les meilleurs représentants de la presse européenne, est un énorme encouragement. Parce qu'ici, c'est facile de perdre le moral. Aleksandar Vučić applique en fait de manière plus extrême encore la même méthode que ses prédécesseurs. Continuez à enquêter jusqu'à l'épuisement, votre travail restera méconnu du grand public. Nos investigations ne sont visibles en fait que sur Internet. Nos lecteurs apprécient notre travail, ils sont curieux, mais ils représentent une minorité. Au-delà des pressions que nous subissons, le problème c'est que la police est sous le contrôle total du pouvoir et que la justice ne fonctionne pas. Lorsque nous lui fournissons des preuves, le parquet, qui devrait procéder à une mise en examen, n'ouvre même pas d'enquête.
Réformer le système judiciaire figure justement parmi les dossiers prioritaires en vue d'une future intégration de la Serbie à l'Union européenne. Un chantier pharaonique qui comprend une profonde réforme de la justice, les droits fondamentaux et la lutte contre la corruption. Grâce à la Commission européenne et au Centre de journalisme européen, 13 représentants des médias européens ont pu rencontrer le ministre adjoint de la justice. Dans un cours magistral, Čedomir Backovič a insisté sur la complexité du plan d'action et les nombreux défis à relever.
Ce qui nous motive le plus, c'est que nous sommes convaincus des bénéfices majeurs qu'une adhésion de la Serbie à l'Union européenne apportera dans la vie de nos concitoyens. À cet égard, nous espérons pouvoir atteindre un juste milieu en termes d'alignement de la justice sur les normes européennes.
Reste le problème de la corruption. Si des résultats substantiels ont été réalisés dans le domaine de la répression, l'Union européenne attend des efforts supplémentaires dans le domaine de la prévention. Le ministre adjoint se targue de l'existence en Serbie d'une agence anticorruption indépendante, mais l'agence a refusé par exemple de divulguer aux mandataires de la République les informations sur le patrimoine du très controversé maire de Belgrade, soupçonné entre autres de blanchiment d'argent, arguant que ces informations était strictement confidentielle. Nous traversons le pont qui enjambe la Save, direction le siège de la délégation européenne. La Commission européenne a prévu une enveloppe d'aide d'1,5 milliard d'euros sur la période 2014-2020 pour soutenir la Serbie dans ses réformes. Ramunas Janušauskas est le responsable de la communication de l'Union européenne.
La Serbie doit encore remplir un certain nombre de critères, en particulier tout ce qui touche à l'état de droit, à savoir une justice indépendante, la liberté de la presse, le respect des libertés fondamentales. Mais elle doit aussi renforcer le contrôle de ses frontières et continuer à s'occuper des questions de migration. Dans ces domaines, le pays a fait des progrès constants, à l'exception de la liberté de la presse et de la lutte contre la corruption où la situation nous inquiète. Mais pour combattre la corruption, il faut avoir des médias libres et transparents. Et pour cela, il faut un changement des mentalités. C'est un processus graduel qui prend du temps. Et justement, je pense que les négociations d'adhésion offrent un cadre qui permettra à la Serbie de s'améliorer dans ces domaines et de s'aligner sur les critères de l'UE.
We believe that Serbia would gradually align with EU policy.
En attendant 2020, l'année où la Serbie espère boucler les négociations avec Bruxelles, la jeunesse serbe se mobilise contre la dictature qui menace la Serbie. Depuis la victoire du Premier ministre à la présidentielle le 3 avril dernier et dans l'attente de son investiture, des milliers d'étudiants se rassemblent tous les soirs dans les rues de Belgrade, Novi Sad, Niš ou Subotica pour protester contre les résultats des élections et contre l'élite politique qu'ils accusent d'accumuler les richesses et d'usurper les ressources. ressources publiques. Au début du mois d'avril, la mobilisation atteignait des dizaines de milliers de personnes à travers tout le pays, un élan démocratique que la Serbie n'avait pas connu depuis 15 ans. Mais ces dernières semaines, ce mouvement spontané, initié sur les réseaux sociaux, s'essouffle par manque d'idées claires, de coordination et surtout de leadership. Ce jeudi, ils ne sont qu'une quarantaine sur le parvis de l'Assemblée nationale dans le centre de la capitale. Dans son haut-parleur, l'un des contestataires fait de l'humour. Il demande au cortège de partir à l'heure pour ne pas rater le journal de la RTS, l'unique chaîne de la télé publique. La réaction des manifestants est immédiate. La chaîne est copieusement sifflée et huée pour avoir pendant des semaines ignoré les manifestations étudiantes. Pavle Garzicic, 24 ans, est fraîchement diplômé en commerce international. Il y a 6 mois, il est rentré de Pékin avec la ferme volonté de rester vivre en Serbie. Mais durement frappé par le chômage, plus de 40%, les jeunes ne parlent que d'une chose, partir à l'étranger. Pavle, comme de nombreux autres jeunes en Serbie, est en colère contre le pouvoir qui ne se préoccupe pas de sa jeunesse. Mais un autre phénomène lui laisse un goût amer. Le soutien qu'affichent les pays occidentaux à l'égard d'Aleksandar Vučić, considéré comme jadis Slobodan Milošević, comme un facteur de stabilité dans la région.
Ce soutien ne date pas des dernières élections. La chancelière allemande est venue avant le scrutin pour apporter son soutien au Premier ministre, exerçant ainsi une influence directe sur le résultat des élections. Alors que cet homme a un contrôle absolu sur les médias. Ça me rend triste, comme la majorité des jeunes qui veulent partir en Europe. Et ça me déçoit surtout, car nous aspirons à entrer dans cette organisation qu'est l'Union européenne, alors que cette dernière soutient un homme qui détruit toutes les valeurs pour lesquelles se bat l'Europe.
Durant notre conversation, un trentenaire intrigué s'est approché de nous pour écouter l'interview. Il avait l'air absorbé par le discours de Pavle. Sergio Monera vient du Costa Rica. En 8 mois, il est littéralement tombé amoureux de la Serbie. Il a un message à l'attention des jeunes.
On me demande souvent comment, venant d'un pays aussi chaleureux que le Costa Rica, j'arrive à vivre ici. Eh bien, je leur réponds, vous avez aussi un pays magnifique. C'est bien de protester, il faut continuer. Ne jamais rien lâcher, car la démocratie est une chose qu'il ne faut jamais prendre pour acquis. C'est un combat permanent. Je crois que le temps est venu pour cette région de prospérer sur le plan international. À vous de voir si vous souhaitez rejoindre l'Occident, l'Europe, ou tracer votre propre chemin. J'aime vivre à Belgrade.
Okay. 20 ans se sont écoulés depuis les premières promesses d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Si les Serbes dans leur ensemble restent attachés à un avenir européen, la crise que traverse l'Europe et surtout le soutien accordé par les dirigeants européens à un homme qui élargit toujours plus ses pouvoirs commence à sérieusement inquiéter une partie de la population. Selon une récente étude, la perspective européenne n'attire plus que 47% des sondés contre 73% en 2009. Dérive autoritaire en Serbie, réveil de la société civile, un grand reportage signé Jelena Tomic, à la réalisation Sandrine Straram.